Les cliniciens doivent rester attentifs aux dysfonctions thyroïdiennes. Mais est-ce nécessaire de faire un dépistage chez tous les patients, même sans symptômes? Mon nom est Roland Gratt. Je suis médecin de famille et professeur agrégé de médecine de famille à l'Université McGill. Le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, un groupe dont je suis membre, vient de publier des nouvelles lignes directrices dans le journal de l'Association médicale canadienne. Je vais discuter aujourd'hui avec Dr. Guylaine Thériault au sujet des nouvelles lignes directrices sur le dépistage de la dysfonction de la glande thyroïde. Guylaine Thériault est médecin de famille, co-responsable pour les soins primaires, Choisir avec Soins Canada. Et en plus de ses fonctions cliniques, Dr. Thériault enseigne la médecine fondée sur les données probantes et la prise de décision, des fois avec moi-même à McGill University. Bonjour Guylaine.
Bonjour Roland.
Quelles sont les recommandations dans ces nouvelles lignes directrices?
En fait, le groupe d'études canadien ne recommande pas le dépistage de la dysfonction thyroïdienne chez les adultes. En deux mots, c'est la recommandation. Et on va expliquer dans les autres questions qu'on va répondre aujourd'hui pourquoi ça en est ainsi. En fait, parce qu'il y a la possibilité de surdiagnostic, de surtraitement à cause du fardeau qu'on peut imposer avec nos investigations, puis aussi parce que vraiment la base factuelle est très, très, très faible.
Et est-ce que ces recommandations s'appliquent-elles à tout le monde?
Bien, en fait, cette recommandation s'applique aux adultes, alors, et ne s'applique pas pour les femmes enceintes. Alors, les personnes en haut de 18 ans qui ne sont pas enceintes, cette recommandation-là s'applique à eux. Et juste pour préciser, bien que c'est probablement clair pour plusieurs personnes, mais comme on parle de dépistage, on parle ici de personnes asymptomatiques. S'il y a des symptômes, on n'est plus dans le dépistage et cette ligne directrice-là ne couvre pas l'investigation d'un problème quelconque pour le patient. Aussi, ça ne couvre pas les gens qui auraient des facteurs de risque spécifiques. Et je peux donner quelques exemples. Par exemple, la prise de certains médicaments comme le lithium ou l'amiodarone ou encore des antécédents. Si un patient a eu de la radiothérapie au niveau du cou ou une chirurgie de la thyroïde, ou à d'autres sortes de maladies qui sont en lien avec des maladies auto-immunes comme la maladie d'Addison, ben là, ça, c'est pas couvert par cette ligne directrice-là. Donc vraiment, ce sont les adultes 18 ans et plus qui ne sont pas enceintes, qui sont asymptomatiques, sans facteur de risque. On ne recommande pas le dépistage chez ces gens-là.
Mais quand on parle d'une dysfonction thyroïdienne, qu'est-ce que c'est précisément?
Oui, effectivement, il faut préciser que dans cette ligne directrice-là, on parle autant de l'hypothyroïdie que de l'hyperthyroïdie. Donc, on sait quand la TSH s'abaisse, on parle d'une hyperthyroïdie. Si elle s'élève, on parle d'une hypothyroïdie. Donc, cette ligne directrice-là s'adresse à ces deux phénomènes-là. Que ce soit les causes communes de l'hypothyroïdie, comme des maladies auto-immunes ou un effet secondaire d'un traitement pour l'hyperthyroïdie, ou que ce soit pour l'hyperthyroïdie, là, la maladie Graves ou d'autres causes, là, c'est de ça que l'on parle. Donc, on ne recommande pas de dépister ni pour l'hypothyroïdie, ni pour l'hyperthyroïdie.
Mais quelle est la fréquence des maladies de la glande thyroïde au Canada?
Oui, quand même, c'est assez fréquent. À peu près un Canadien sur 10 rapporte avoir un diagnostic de dysfonction thyroïdienne. Donc, on peut dire que c'est quand même commun. Et on voit qu'il y a plus de femmes qui rapportent avoir un problème de thyroïde que d'hommes. On parle de près de 16 % des femmes, 4 % des hommes. Et aussi, on voit avec l'âge, quand les gens vieillissent, quand on arrive en haut de 85 ans, il semble avoir une prévalence qui est augmentée aussi. Mais ça, c'est sans tenir compte que souvent la TSH, c'est ce qu'on mesure dans le sang, augmente aussi normalement avec l'âge. Donc là, il y a un questionnement à voir, est-ce que c'est une augmentation réelle ou juste secondaire à l'âge?
Donc, pourquoi y avait-il un besoin de ces lignes directrices?
Bien, en fait, on n'est pas capable de connaître exactement l'ampleur du phénomène, mais on a une bonne idée quand même que le dépistage de la dysfonction thyroïdienne, donc de demander une TSH, c'est une pratique qui est quand même pas mal répandue au Canada, et ça dans les milieux de soins primaires. Et peut-être en partie, une des raisons pour ça, c'est qu'il n'y avait pas de ligne directrice claire. On sait qu'en 2015, aux États-Unis, ils ont fait une recommandation, mais ils n'étaient pas capables de se positionner vraiment pour ou contre le dépistage. Donc, ça laissait les praticiens un peu dans une zone grise, là, sans vraiment d'aide pour orienter leur pratique. Donc, du point de vue du groupe d'études, c'était important d'offrir une recommandation qui était claire aux praticiens de première ligne, parce que il n'y a pas juste des avantages. Quand on parle de dépistage, les gens voient souvent les avantages, mais il y a aussi des dangers au dépistage. Et ces dangers-là sont de plus en plus connus et mis en lumière et doivent maintenant faire partie de la réflexion autour de n'importe quel dépistage, y compris celui-là de la dysfonction thyroïdienne.
Que sont les dangers du dépistage? N'est-il pas toujours peut-être plus avantageux de trouver un problème le plus tôt possible?
Oui. Mais en fait, de trouver un problème, ça plaît à l'esprit, hein, que de trouver un problème le plus tôt, on va pouvoir agir, on va pouvoir changer l'issue clinique, mais faut-il encore qu'on soit capable de prouver que tel est le cas? Et quand on a regardé les données de la littérature sur le dépistage de la dysfonction thyroïdienne, ben on a vraiment une paucité, on a très, très peu de données et encore moins de données de bonne qualité. Donc, on n'arrive pas à clairement identifier des bénéfices là à ce dépistage-là. Mais par exemple, dans n'importe quel test qu'on fait, incluant les dépistages, ben il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des faux positifs ou des surdiagnostics. Et je sais que pour plusieurs, c'est souvent confus, ces deux termes-là. Ça peut sembler similaire, mais c'est très différent. Mais le faux positif, c'est le résultat qui est un peu élevé, qu'on contrôle et qui revient normal. Donc, même si ça peut paraître banal, c'est quand même un fardeau là au niveau du temps laboratoire puis au niveau du patient aussi. Tandis que sur le diagnostic, bien, c'est quelque chose qui revient anormal et qu'on va traiter, mais si on n'avait pas fait le dépistage, cette personne-là n'aurait jamais eu de symptômes là, qui découlaient, jamais eu de conséquences là, de cette augmentation, par exemple, légère de TSH. Donc, ça, c'est un surdiagnostic. Et là, ça entraîne, oui, du fardeau pour le patient au niveau des investigations, des effets secondaires possibles du médicament, mais s'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut le prendre. Alors, ça devient un fardeau journalier de prendre un médicament. Donc, c'est pas banal, ces choses-là, quand on met en contrepartie que les avantages, on ne trouve pas de données qui nous permettent de dire qu'il y aurait un avantage. En fait, il n'y a pas de données pour les avantages. Donc, quand on prend une décision, il faut toujours mettre en relation ces deux choses-là. Donc, ici, c'est difficile parce que les bénéfices, même si on pourrait penser qu'ils sont possibles, on n'a pas de preuves qu'ils sont présents, mais les désavantages, eux, le sont.
Donc, bénéfice zéro, puis danger, ce n'est pas zéro. Très intéressant, Guylaine. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, Roland.
J'ai discuté avec Dr. Guylaine Thériault, une porte-parole des nouvelles lignes directrices pour le dépistage de la dysfonction de la glande thyroïde. Les lignes directrices sont publiées dans le journal de l'Association médicale canadienne. Vous pouvez trouver l'article au site www.cmaj.ca. Je suis Rowan Grant. Merci d'avoir été à l'écoute.